pour le développement d'aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été trop longue.
Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir eu l'audace de choisir ce sujet. Alors, on va passer aux questions.
Je voudrais vous demander, parce qu'il me semble que vous n'avez pas prononcé ce mot, quelle place vous faites à l'idée de contemporanéité ? Je pense à ça, par exemple, parce que quand on parle du souvenir de la sortie d'Égypte, et en particulier le soir de Pessah, il nous est demandé de nous sentir comme contemporains de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire comme si nous y étions. Donc ce qui n'est pas tout à fait la même chose que ce souvenir. Donc, et il ne nous est pas commandé d'être contemporains de l'esclavage. Il nous est commandé de nous en souvenir, mais pas de nous en sentir contemporains. Et je trouve que la catégorie de la contemporanéité avec est très importante. Et je pense aussi à ça en référence à un commentaire du Gaon de Vilna sur le prologue du Schéma Israël, quand nous disons « d'un grand amour tu nous as aimés ». Et le Gaon de Vilna réfléchit à savoir est-ce que c'est du passé. Et il cite et il dit bon, ce grand amour il s'est manifesté en trois occasions, précisément la sortie d'Égypte, deuxièmement le don de la Torah et troisièmement le pardon après la faute du Vaudor. Et donc c'est de ces trois amours-là dont nous avons été aimés, mais de ces trois amours-là dont nous devons aussi nous sentir contemporains. Et ça me semble particulièrement important, c'est-à-dire cette idée de contemporanéité, là, maintenant, tout de suite, de certains événements du passé et pas des autres.
Effectivement, je n'ai pas prononcé ce mot, mais je pense que je le... En fait, je pense que j'aurais dû effectivement y faire référence parce que finalement, c'est ce que j'entendais un peu dans la contraction du temps. Mais en fait, je pensais plutôt en termes de conséquences de ce que faisait cette évocation de quelque chose qui était passé dans le présent. Et donc, la conséquence que ça a fait sur le geste intellectuel, qui était cette contraction du temps, mais effectivement... effectivement, il y a cette idée de contemporanéité et en même temps, bon, je sais pas comment est-ce que ça s'interprète de manière religieuse, mais il me semblait que, enfin, je sais, peut-être que le Rav pourrait répondre à ça parce que quand j'ai posé la question la dernière fois, vous m'aviez dit que quand on se souvient, on a un rapport au passé. Il y a une modification, on ne fait pas exactement ce qui a été fait par le passé. Il y a dans l'activité rituelle une modification. Et donc la contemporanéité, c'est pas l'identité non plus, c'est pas le même. Il y a quelque chose qui augmente. Et en fait, c'est ça qui m'intéressait dans l'idée du souvenir, c'est que le souvenir augmentait et donnait quelque chose en plus. Bon, je ne sais pas si on peut dire ça. Une construction.
Nous construisons quelque chose qui est susceptible de nous ramener, nous aider à nous souvenir. Il ne s'agit pas d'essayer de faire remonter l'image du souvenir, ça sert. De toute manière, aujourd'hui on sait bien que ce n'est pas comme ça que la mémoire fonctionne. De toute façon, il ne s'agit pas de faire remonter une photographie, il s'agit de faire, de penser à quelque chose qui nous incite, enfin, qui nous dirige, qui nous fait penser à. Donc c'est jamais exactement... On ne fait jamais la reproduction de ce à quoi on veut se souvenir, en fait. Jamais.
Non, c'est bon.
Bien entendu, dans cette jeu, vous avez donné une version positive du souvenir. comme quelque chose qui augmente. Mais on peut aussi être prisonnier du souvenir. Il y a la notion de la vertu de l'oubli. Et donc, je voudrais savoir comment ça peut s'interpréter justement par rapport à ce que vous avez raconté. Comment en fait faire que le souvenir ne soit pas une réactivation perpétuelle du traumatisme, ou qu'elle soit une réactivation qui permette de le dépasser et non pas simplement de le revivre psychiquement comme une sorte de cauchemar perpétuel, soit au sens individuel, soit au sens collectif.
Petite parenthèse, vous pouvez manger.
Oui, mais vous avez parfaitement raison. Il y a cette dimension dans le souvenir, mais c'est pour ça que j'ai aussi... Je n'en ai pas parlé parce que je parlais d'une certaine pratique du souvenir qui n'était pas ce souvenir-là traumatique qu'on ne choisit pas d'ailleurs. Enfin, qui c'est quelque chose dans lequel on est immergé et qui est quasiment une forme d'aliénation de ce point de vue-là. Mais là, le souvenir dont je parle, c'est un souvenir qui est choisi. Qui est pratiqué, qui est sélectionné, qui est un exercice. Il me semble, en fait. Hein, mais vous avez raison de dire qu'il y a cette dimension là du souvenir. C'est le souvenir qui est indépendant de notre volonté, celui-là. Comme quand... Oui.
Parce que justement, la dimension consciente et inconsciente peuvent être...
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que on choisit de se souvenir, mais finalement, est-ce que ce choix est totalement conscient?
Là, pour un fondement du politique, oui. C'est ça qui est... Peut-être qu'il y a toujours des dimensions inconscientes, mais précisément parce qu'elles le sont, je ne les ai pas explicitées ou je ne peux pas les expliciter. Mais là, dans une idée de fondement du politique, comme il y a une idée de consentement, le choix est conscient. On a à l'esprit ce qu'on est en train de choisir et ce qu'on est en train aussi de refuser ou d'abandonner derrière soi. Il y a une conscience du passage. Oui, il y a une conscience du passage qui est... c'est très subtil parce que vous voyez que même dans le texte ou dans des rituels ou dans des manières de faire, il y a, pour se souvenir, il y a une dimension de l'omission et de l'occultation qui doit être présente. Et c'est par ce contraste-là que le souvenir existe. Mais là, moi, dans ce que j'ai développé, j'ai pas du tout parlé de cette dimension psychanalytique. Pas du tout. Puisque j'ai parlé du politique, après, on peut parler du lien entre les deux, mais là, j'ai pas d'expertise pour en parler.
Oui, je crois que Mme Chaly avait dit en passant qu'on n'est pas... On n'a pas de mitzvah de se souvenir de l'esclavage. La mitzvah, c'est de se souvenir de la sortie d'Égypte. Et ce que je disais avant, c'est qu'il y a une construction. Et dans cette construction, on fait la différence entre le traumatisme et le souvenir qu'on veut garder. Alors c'est vrai que dans ce souvenir, y compris par exemple, on a parlé de la sortie d'Égypte, c'est sûr que le soir du Seder, il y a un souvenir de l'esclavage par le biais des herbes amères, si vous voulez, mais c'est seulement comme, c'est presque un faire-valoir pour qu'on comprenne de quoi on est sorti, mais il ne s'agit pas de se souvenir, de garder le souvenir de l'esclavage comme tel. On veut garder le souvenir de ce qui s'appelle Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte elle-même. Donc, pas du tout de l'événement dans sa totalité. Vous avez raison, si on voulait faire remonter l'événement dans sa totalité, alors on est en même temps toujours le trauma. mais ce n'est pas ça qu'on veut faire. Il y a une construction. On sait exactement ce qu'on veut faire remonter. C'est une espèce de tri qu'on a fait, et on construit de telle sorte que ça nous ramène à quelque chose de bien précis. Si vous voulez, même le soir du Seder, si vous voulez, vous avez, au début du Seder, vous avez la matzah qui représente un pain d'esclavage, et à la fin, c'est le pain de la liberté. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce même pain. En général, j'avais l'expliqué. On peut dire que ce pain, il a été modifié. Il a été bombardé par le récit. D'accord? Et le récit a transformé le pain, en quelque sorte. Parce que, et c'est pour ça qu'il y a une loi qui dit que le récit doit se faire à matzot découverte. On doit découvrir les matzot pour qu'elles soient vraiment bombardées. La seule matzah qui n'est pas bombardée, c'est la ficomane, à la fin, parce qu'elle n'a pas du tout la même fonction. Celle-là, elle n'est pas bombardée. Si vous voulez, donc il y a un choix très clair. C'est vrai, on va faire un choix de ce qu'on veut, ce qui est ce qu'on pense être une construction pour nous. Et c'est, vous avez dit très justement que quand on sort d'Égypte, en Égypte, on n'est pas encore un peuple. Nous, on considère qu'on est devenu un peuple au pied du Sinaï. C'est la grammaire qui nous permet de dire ça. Donc c'est vrai que en chemin, en passant, il y a eu Shabbat. Vous avez dit qu'on a reçu Shabbat avant la loi. On a reçu Shabbat, qui est une loi quand même, mais enfin, la loi du Shabbat, on l'a reçue avant de recevoir les 10 commandements, si vous voulez. Et donc il y a quelque chose qui fabrique la relation, des relations dans le peuple. On peut même, si c'est pas, c'est un peu loin à expliquer, mais on peut aussi expliquer. Je vais vous le dire en deux mots. C'est la Torah, elle prescrit, enfin elle rapporte que Hachem a demandé à Moshe de demander aux Bnei Israël qu'ils empruntent de l'or et l'argent chez les voisins. Et le terme qui est utilisé dans la Torah, c'est le mot réa, le prochain, ce qu'on a dans Ve'aftal ve'achakamocha. Et le Gaon de Vilna dit que jamais dans la Torah, le mot réa ne peut concerner un non-juif. Donc ça veut dire que on ne comprend plus rien du tout. Ils ont emprunté de juif à juif, ils se sont empruntés les choses les uns les autres. Alors je crois que le gars lui dit seulement ça, mais je crois qu'on peut penser que les esclaves en Égypte n'avaient pas de relation entre eux. Quand quelqu'un il en est à chercher son souffle, il ne s'occupe pas du voisin. Enfin, Simone Veil disait que quand quelqu'un avait une couverture, il n'était pas sûr du tout de pouvoir la garder. Celui qui était plus fort que lui allait lui arracher sa couverture. Les gens, ils pensent qu'à eux à ce moment-là. Et ce qu'Hachem a demandé au Bnei Israël, c'est de fabriquer de la relation. D'abord, empruntez-vous les uns aux autres, ça fabrique une relation. Et on peut dire qu'après, certains des Égyptiens ont trouvé que cette espèce d'embryon de société qui se créait était agréable. Et donc, eux aussi se sont joints et eux aussi ont donné, ils ont échangé, enfin, ils ont aussi voulu échanger avec ce qu'ils avaient, qui était de l'or et de l'argent. Bon, après, il y a toujours le fameux problème, comment ça se fait qu'on est parti avec sans le rendre. Bon, mais ça, on peut dire que les Israël entre eux, ils ne se sont pas rendus non plus, donc c'est aussi une. Après, il y a une explication devant Alexandre, la Gemara, dans Sanhedrin, qui explique les choses. Mais bon, parce que ça, c'est un petit problème. Comment Hachem avait besoin d'accomplir sa promesse avec un coup de tordu comme ça. Bon, mais ça.
Très bien, le thème aujourd'hui, c'est politique du souvenir. Dans la sortie d'Égypte, et d'ailleurs dans une grande partie des récits bibliques, parce que je trouve que je peux tout à fait me présenter mon ignorance sur ce sujet, il me semble que la structure narrative est assez classique, c'est-à-dire qu'il y a une situation, une épreuve, une résolution d'épreuve qui donne une issue positive à l'épreuve. La politique du souvenir, la visite du trauma, elle devient plus compliquée quand il y a l'épreuve, et que l'issue de cette épreuve n'est pas une issue positive, et qu'il n'y a pas du coup la possibilité, en tout cas, de discuter, à trouver une construction narrative qui mène à une révolution qui soit vécue comme qui soit puisse être perçue comme positive.
Enfin.
Et c'est justement ce qui caractérise le traumatisme, c'est l'impossibilité à pouvoir les raconter d'une manière à leur donner un sens qui ne soit pas simplement un sens négatif. Et que donc c'est par psychiatrie notamment tout l'enjeu par rapport à quelqu'un qui a vécu un trauma et qui le revit comme ça sans arrêt, c'est comment arriver à ce que d'une certaine manière il arrive à raconter ce trauma ou comment qu'il arrive à l'oublier et donc à ne plus s'en souvenir pour pouvoir continuer à vivre, passer d'un système de survie à un système de vie.
Est-ce que c'est obligatoirement l'oublier ou bien c'est lui donner un autre sens?
C'est justement ça. Ben,
justement,
la question, c'est cette difficulté, parfois, à donner du sens par rapport à certains problèmes.
C'est sûr que c'est très difficile.
Sur lesquels on arrive à donner du sens, et d'ailleurs, la religion sert également à cela, mais il y a des traumatismes sur lesquels donner du sens est extrêmement compliqué, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, et du coup, justement, l'oubli à ce moment-là joue son rôle là-dedans en termes de politique au sens individuel et politique au sens politique, dans le sens du
Justement, c'est un peu long, mais je ne vais pas l'expliquer, mais on peut aussi expliquer justement que le fait qu'on ait emprunté de cette manière-là et que ça ensuite était vu comme le paiement du travail, ça va donner du sens à l'esclavage lui-même, à la souffrance elle-même. Donc si vous voulez, dans quelque chose qui est le côté complètement traumatique, on peut le récupérer aussi, disons, faire quelque chose de positif pour finalement, on s'est construit avec ça. Cette construction de négative, si vous voulez, cet esclavage, il est dès le départ présenté dans la Torah comme une solution positive, comme quelque chose de difficile à comprendre, mais si vous voulez, on explique que c'est un choix d'Abraham à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a proposé à Hachem a proposé à Abraham ou la mort, c'est-à-dire est-ce que tu veux une civilisation mortelle comme toutes les civilisations, ou est-ce que tu veux pour ton peuple l'exil avec l'esclavage? Et c'est Abraham qui a choisi ça. Donc je ne peux pas l'expliquer comme ça en deux mots, mais c'est de ça qu'il s'agit. Et donc ça aussi, c'est tout un travail pour donner du sens à cet esclavage, à l'esclavage lui-même. Pas seulement, mais par contre, dans le souvenir, on travaille pas sur ce souvenir-là. Le souvenir, c'est la sortie d'Égypte, effectivement. Mais le travail se fait aussi pour donner du sens à la souffrance également. Bon, désolé, c'est un peu long.
Il me semble qu'il y a un point commun entre toutes les interventions ici sur ce thème, c'est que un trait commun à l'espèce humaine, c'est de se demander ce qui va lui arriver. Ce qui va lui arriver à titre de personne, et ce qui va arriver à la collectivité humaine à laquelle il se réfère. Et la source qui s'offre tout de suite pour trouver des réponses à cette question, c'est le passé. En gros, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que dans le passé, il y a les ingrédients de ce qui va arriver. Mais ce passé est composé de bons souvenirs et de mauvais souvenirs. Alors on va essayer de reproduire les bons et de chasser les mauvais. Et dans ce domaine, le rituel annuel du judaïsme est remarquablement explicite. D'abord, le commandement du Shabbat commence par Zahor. Le Shabbat, c'est plutôt un souvenir agréable. Et la première chose qu'on dit lui dans le Kiddush, c'est « Souviens-toi ». Mais la deuxième version qui se trouve dans Deutéronome, c'est « Observe ». Et les commentateurs sont d'accord, me semble-t-il, pour dire que Zahor, c'est-à-dire des choses qu'il faut faire, et Shamor, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. c'est-à-dire les actes interdits, et qui sont évidemment des stigmates d'esclavage. Mais du souvenir, il y en a ailleurs, notamment Amalek. Dans le Shabbat qui précède Purim, on va se préoccuper d'effacer le souvenir d'Amalek et de ne pas oublier de l'effacer. C'est-à-dire que là, un souvenir qu'on doit effacer et il faut se rappeler qu'il faut l'effacer. Mais toutes les fêtes sont toujours des choses comme ça. À Shavuot, on mime le fait qu'on reçoit la Torah, un souvenir agréable. Et à Tisha B'Av, on pleure assis par terre pour se souvenir qu'on a pleuré et qu'il faut faire en sorte de ne pas pleurer à nouveau. Et là, je trouve qu'il y a une petite lacune dans le remarquable exposé de Madame, c'est qu'elle n'a pas assez souligné le rapport entre le souvenir et le rituel. Le rituel oblige à s'installer dans l'idée qui dominait dans l'événement qu'on est en train de mimer. Je n'insiste pas, mais j'observe que la fonction du rituel est très difficile à intégrer dans la pensée occidentale. Le rituel est souvent associé à contraintes, esclavage, réunion rituelle, c'est une mauvaise réunion. À mon avis, c'est une grande erreur. Le rituel fait revivre le souvenir. Dans tous les cas rituels que j'ai envisagés, c'est très exactement ça, sa fonction. Quand on me demande si les Israéliens globalement sont religieux, on me dit, ben, ça dépend de la question qu'on se pose. 15% d'entre eux vont à la synagogue, les Juifs vont à la synagogue le Shabbat matin. Mais le soir du Seder, 85% des Israéliens font un repas, qui n'est pas forcément un Seder cachère, mais il marque le coup. Et le comble du rituel, c'est la Brit Mila. Quand un Israélien a un fils, même s'il est communiste, il le fait circoncire. Donc, il est clair que le geste porte le souvenir. Et évidemment, on porte les bons souvenirs pour qu'ils se reproduisent, et on fait mention des mauvais pour qu'ils ne se reproduisent pas.
Moi, je pense que j'ai essayé de montrer à quel point le rituel était systématique, enfin, était extrêmement important, que c'était le rituel qui matérialisait la possibilité et la disposition au souvenir. Que ce soit même Walter Benjamin regrette qu'il n'y ait plus de rituel d'une certaine manière, que la vie moderne soit une vie qui soit une vie d'isolement, de discontinuité des informations, qui n'ait pas d'intégration dans la tradition, dans une expérience. Donc, les manquements de la modernité et même plus encore l'autre dimension du rituel. C'est la réunion avec un groupe, avec la communauté. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est quelque chose que Benjamin souligne aussi, enfin, dans tous les philosophes que j'ai cités, et qui, d'une certaine manière, c'est vrai, sécularisent leur religion. Ils ne font pas du judaïsme quand ils font ces textes-là. Ils réfléchissent avec des éléments du judaïsme. La communauté est quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc c'est pour ça que j'en suis arrivée à la politique du souvenir, d'ailleurs, parce que sans cette idée de communauté, il n'y a pas de politique ensuite qui vient se surajouter. C'est pour ça, d'ailleurs, politique individuelle, je n'entends pas ça, parce que politique, c'est le passage d'une horde ou d'une agrégation d'individus à une communauté, à un peuple, et ensuite. Donc, je pense avoir essayé de montrer que aussi le rituel était pensé précisément par ces philosophes-là. J'espère ne pas l'avoir mis de côté, en tout cas. C'est évident que c'est la matérialisation et narrative et dans le champ et dans la réunion des individus du souvenir.
Il me semble qu'il y a un rituel qui a envahi la société actuelle, c'est les écrans.
Et ça, c'est une aliénation.
Et ça les donne aussi.
Denis. Oui, Abhishek, tu as fait un parcours comme ça, tu nous as entraîné dans un parcours énorme qui m'a fait qui pose énormément de questions. Donc c'est moins des questions que j'ai que des impressions ou des remarques. Alors sur le fait que avec le temps qui passe, quelque chose s'intensifie au lieu de s'émousser. Et ça me fait penser à une phrase d'Anna Arendt qui dit ça aussi à propos des Juifs, mais elle le dit consternée. C'est pas du tout un. Elle est consternée. Elle dit, voilà, pour quelqu'un de normalement constitué, plus le temps passe, plus le passé est englouti en quelque sorte et s'émousse et perd de son intensité, perd de sa couleur. Et les Juifs, elle dit, c'est l'inverse. Plus le temps passe, plus le souvenir devient intense et net. En fait, ils s'en foutent complètement de ce qui leur est arrivé il y a 20 ans. Ils ont oublié. Mais ce qui leur est arrivé quand ils ont été libérés d'Égypte, ça, ils s'en souviennent avec énormément d'acuité. Voilà, donc ça c'était le en disant en fait, c'est un et ce qu'elle suggère naturellement, c'est que l'histoire hégélienne ne les a même pas effleurés. C'est-à-dire, il faut être dans une temporalité très particulière, qui est la temporalité, disons, gréco-romaine, pour éprouver le cette espèce de cumulativité tu vois, des événements historiques. Alors la deuxième chose c'est que je parle sous le contrôle du rabbin et de gens plus compétents que moi c'est qu'effectivement il y a toujours rappelle-toi donc Zahor, il y a souvent aussi Lotishkar, n'oublie pas. Les deux choses, quelquefois, je crois qu'il y a une. Alors j'ai été amené à regarder ça de plus près, un peu à cause de toi, parce que Zarka de la revue Cité m'a dit est-ce que tu ne peux pas écrire quelque chose sur le récit juif ?
Oui.
Donc j'ai été voir un tout petit peu pourquoi les juifs en fait ne racontaient pas de récit. Il n'y avait pas de. Pourquoi il n'y a pas la catégorie roman national chez les juifs ? Il n'y a pas de catégorie comme ça. Et donc, il n'y a pas de catégorie roman national nulle part. Non. Il n'y a pas cette même chose qu'on appelle un roman national. Alors j'avais relevé qu'à propos, par exemple, de Joseph, il y a dans la même phrase, les rabbins s'interrogent pourquoi est-ce qu'il est écrit. À propos de Joseph, donc c'est la chose suivante. À propos.
Les chansons,
exactement. C'est les chansons à oublier. À oublier de lui rappeler. Donc, il y a d'abord la première fois le Zahar, et puis Vaishkafeu. Et il l'oublia. Donc, et alors la distinction entre se souvenir et ne pas oublier, c'est que, on pourrait dire, c'est que donc se souvenir c'est simplement le fait que le passé s'actualise dans le présent. Il y a du passé qui arrive dans le présent, mais le souvenir ça peut être comme chez Proust, c'est-à-dire ça peut être ce qu'on appelle la mémoire involontaire, c'est-à-dire quelque chose qui s'impose spontanément, qui surgit comme ça tout à coup. Souvent, la Madeleine, c'est typiquement ça. C'est-à-dire, par association, tout à coup, un souvenir émerge, surgit, Mais il n'oublia pas, ça suppose une mnémotechnique. Ça suppose qu'il y ait un dispositif qui retienne de manière consciente, volontaire, le passé dans le présent. Alors, là de nouveau, sous le contrôle, il y a quand il vient l'injonction de se souvenir, on l'a vu, une fois c'est ce qui revient régulièrement, c'est souviens-toi, alors quand même, que tu as été esclave en Égypte et que tu as été libéré, parce que la libération de l'esclavage n'aurait pas beaucoup de sens si on ne partait pas d'une condition servile. Donc c'est le passage en fait dont il faut se souvenir, de l'un à l'autre. Et effectivement, il y a un deuxième moment du souvenir qui est toujours important, c'est Zachor et Amalek. Souviens-toi d'Amalek. Et ce sont deux, en fait, la première fois c'est souviens-toi de la libération, et la deuxième fois c'est souviens-toi de l'inimitié. Donc ce sont deux configurations dans lesquelles la question du souvenir revient tout le temps. Donc, en fait, certes, il y a élaboration, mais ça veut dire quoi, souviens-toi d'Amalek ? Souviens-toi d'Amalek, ça veut dire, souviens-toi qu'il y a de l'inimitié. Pourquoi est-ce qu'il faut se souvenir ? Parce que si on se souvient qu'il y a de l'inimitié, on s'y prépare. C'est un signe. Il dit « Zerer le Dorot ». L'expression, c'est « Zerer le Dorot ». C'est un souvenir pour les générations qu'il y a de l'inimitié. Et la libération d'Égypte, c'est le souvenir de la libération, donc qu'il y a alliance. Ça, ce qui se rappelle au souvenir, c'est la question du fait qu'il y a alliance entre Dieu et le peuple. Donc, ce qu'il me semble, moi, c'est que la politique du souvenir, c'est, alors, un peu ce que disait Benjamin que tu as, c'était très, très frappant. Benjamin, il touche, je pense, juste. En fait, ce qui se passe, c'est que l'événement qui, dans le monde, tu vois, il dit les événements, si on était un journaliste, ben, ce ne serait qu'une information. En fait, il faut qu'il y ait l'aura. Et là, c'est exactement le contenu du souvenir, c'est l'aura. C'est-à-dire, quelque chose surgit dans le présent, et en réalité, c'est la contemporanéité qui immédiatement se réalise d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est une espèce de voir comme.
De réplique,
oui. C'est comme une réplique. Donc, c'est de cette manière-là, parce que tu remontais à la question politique de l'assemblement. Mais comment tu fais un assemblement à bord pour Ops? C'est moins compliqué, naturellement, parce que il y a l'île Britannique et c'est bien là que ça va se passer. Mais pour les Juifs, à partir de l'exil, il faut que ce soit ancré dans quelque chose. Et naturellement, c'est l'injonction du souvenir qui va devenir le substitut du territoire de l'assemblement. Tu vois, et c'est pour ça que c'est pour ça que mémoire et politique sont intimement liés, parce que c'est le territoire de l'assemblement. C'est là que ça se fait. Ça se fait, disons, de manière, ça se fait dans le présent. Donc en fait, le souvenir, c'est pas faire revenir quelque chose du passé. Le souvenir, c'est penser comme une virtualité du présent. Et naturellement, cette virtualité du présent, c'est à la fois naturellement les joies de la libération, mais quand même Tisha B'Av, c'est quand même le souvenir de la destruction du temple. Et pour là aussi, il y a toutes sortes d'élaborations très compliquées. Moi, je ne sais pas pourquoi le temple a été détruit. Si on regarde, si on essaie de comprendre que disent les rabbins, que les raisons pour laquelle le temple a été détruit, c'est quand même très complexe. Il n'y a pas une réponse qui s'impose de manière... Mais en même temps, c'est un jour de deuil. Et donc, la destruction du temple reste un traumatisme. C'est ce que je voulais dire à propos du traumatisme. Il y a un traumatisme. Donc je ne vois pas trop pourquoi il faudrait qu'il faudrait surmonter. Ce n'est pas le traumatisme qu'il faut surmonter. C'est la cause du traumatisme qu'il faut surmonter. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est...
D'ailleurs, c'est le cheminement psychanalytique, il me semble, de remonter aux causes du trauma. C'est ça qui est censé apporter un dépassement au trauma. Donc, bon, le fait qu'il y ait un trauma, bon, je parle de psychanalyse, mais normalement, je ne suis pas tellement compétente dessus. Mais comme je sais que la psychanalyse emprunte un peu à Spinoza, donc de ce point de vue-là, je sais que quand on connaît la cause du trauma, le trauma perd un peu de son pouvoir sur d'aliénation sur la personne. Mais en fait, ça serait, si on devait, ça serait métaphorique. Enfin, si on devait en faire une transposition, ça serait, bon, il y a ces événements dramatiques et malheureux dont on se souvient, et éventuellement, peut-être que l'interprétation et le commentaire cherchent les causes à ces événements traumatiques qui accompagnent le souvenir de ces événements malheureux qui prennent un sens par la tradition herméneutique. Enfin, peut-être. Bon, c'était sur ton dernier point. Après, oui, merci d'avoir cité Arendt. Je ne savais pas. Alors, ça ne m'étonne pas qu'elle dise ça avec consternation. C'est drôle, mais il faudra que tu me donnes la référence. Parce que ça m'intéresse de savoir ce qu'elle pensait exactement vis-à-vis de ça. Pour la politique du souvenir, de l'assemblement et la virtualité du présent, et c'est ça, c'est intéressant, c'est que le présent qui acquiert une forme de profondeur. Et c'est pour ça que l'exercice de la contraction du temps, qui est de plus en plus difficile à mesure que le temps s'éloigne, augmente en qualité. Enfin, c'est ça, c'est proportionnel. C'est-à-dire, plus le temps s'éloigne, plus la contraction du temps a une qualité extraordinaire. Je pensais souvent aussi au schéma qu'avait donné Lévi-Strauss, puisque c'est avec lui que j'ai un peu démarré ça. Parce que chez Lévi-Strauss, il y a ce goût du primitif, quoi, d'une certaine manière, la recherche du sens archaïque des choses, qui n'est jamais donné, qui est toujours donné à travers plusieurs couches, quoi, de temporelles, historiques, rituelles. Mais il parle d'autre chose, il dit qu'il y a deux types. Il a conscience que c'est très schématique et que donc c'est insuffisant, mais ça donne des directions, à mon avis, intéressantes à la pensée. Qu'il y a deux types de temporalité, il y a la temporalité chaude et la temporalité froide des peuples, et que par exemple nos sociétés complexes sont dans une temporalité froide, tandis que les peuples primitifs, dits primitifs, sont dans une temporalité chaude. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne veulent pas avoir une conscience historique parce qu'ils désirent... L'inverse. Ah, qu'est-ce que j'ai dit?
L'inverse. C'est l'archaïque qui est froid et nous qui
sommes... Ah, d'accord. Alors, le sens, c'est qu'ils ne veulent pas avoir une conscience historique dans la mesure où ils veulent rester proches de l'origine, de leur origine mythologique, de l'origine de la création de leur monde. Et s'ils s'en éloignaient, ce serait dramatique pour eux. Donc, il faut qu'il y ait un sentiment de proximité avec l'origine de la création. Ça me semble très intéressant, et je pense que le judaïsme réussit et c'était prévu dans le texte, quoi, de garder cette proximité. Mais en réussissant à intégrer la société complexe en Libye. Par l'exil. Et ça, c'est une autre question, c'est une question de presque de la plasticité de la religion juive, d'une certaine manière, qui ne se dissout pas avec l'exil. Ah, pardon, tu veux poser une question avant de partir?
Oui.
Non, parce qu'en fait, je pense qu'il y a un auteur qu'il faut travailler là-dessus, sur la plasticité de la religion. C'est Ernst Cassirer qui parle de ça, qui parle de pourquoi est-ce qu'il y a une dynamique plus fertile chez certaines religions plutôt que d'autres. Qu'est-ce qu'il y a dans leur récit qui permet une souplesse vis-à-vis de l'évolution, de la modernité, etc. C'est une modernité qui n'empêche pas le fait que la religion continue et bon, mais voilà, c'est juste ce à quoi ça me faisait penser. Pardon.
Suggérer un élément de complexité supplémentaire après tous ceux qui ont été proposés. En effet, quand on se souvient, et la langue française le dit, on se souvient de ce qui nous est arrivé. Et le mot souvenir est un peu ambigu, il désigne à la fois l'acte de remonter à l'événement et il désigne l'événement lui-même en tant qu'il est remémoré. Donc on est un petit peu gêné. Mais il y a quand même une petite difficulté parce que le statut, si je puis dire, presque ontologique de ce dont on se souvient est infiniment variable. Je vais en donner deux exemples. Il y a le fait que me souvenir d'une blessure que j'ai personnellement reçue hier ou avant-hier n'est pas la même chose que de me souvenir de la sortie d'Égypte. Parce que je ne l'ai pas vécu dans ma chair, parce que peut-être que la parole peut circuler de génération en génération, mais on le voit très bien d'ailleurs à Tisha B'Av, certains d'entre nous, et je me compte parmi ces gens, ont un mal fou à s'affliger terriblement, et s'affligeraient bien davantage si on venait leur piquer le bout du doigt avec une épingle, que de la destruction du temple. Et donc, sans entrer même dans des discussions qui relèvent des cadres sociaux de la mémoire et de la transmission, etc., il y a le fait que mon rapport à ce passé-là n'est pas le même que s'il s'agissait d'un passé qui était mien. Et donc, c'est la nature même de la chose passée qui change. Ça, c'est le premier élément de complexité. Le deuxième se formulerait au fond de la même façon, mais est totalement différent. Le premier, c'est donc un passé qui, pour moi, n'a pas été mon présent. Je dirais que dans le deuxième cas, c'est un passé qui n'a jamais été présent. Et c'est le cas de Platon. Vous avez cité la réminiscence. Mais quand Platon évoque la réminiscence, c'est pour résoudre un problème théorique. Si je ne connaissais pas déjà, je ne pourrais jamais connaître. Parce que pour connaître, il faut reconnaître ce qu'on ne connaît pas. Si on ne connaît pas, on ne peut pas le reconnaître, etc. Donc, il balance, il change de régime de discours, il passe du logos au mutos et il répond à son problème par une histoire un petit peu farfelue. Socrate tient d'une devineresse qui tient elle-même de sage, etc. Bon, on aurait tout connu à l'avance. Évidemment que pour Socrate, il ne s'agit pas de nous raconter ce qu'on a effectivement vécu. Il s'agit de penser ce passé comme un principe qui nous permet de penser que le présent est toujours en quelque sorte animé par en dessous d'un passé qui n'est pas chronologique, qui n'est situable sur aucune frise, sur aucune échelle. Et donc en quelque sorte, c'est une dimension de passé. Alors on pourrait penser à la suite de ça, par exemple au passé chez Lévinas aussi, à la trace, etc. C'est-à-dire toutes les dimensions par lesquelles quelque chose comme une facticité qui ne se repère pas dans un axe temporel et quand même constitue le soubassement de notre présent. Et ça se pense sur le modèle du passé, ça se dit en termes de réminiscence, mais il y va de toute autre chose que du moment où je me souviens de quelque chose qui m'est effectivement arrivé, qui est datable sur un calendrier et qui a un jour constitué un présent. Et je crois que là, dans le premier cas, il s'agissait de l'événement qui ne m'est pas arrivé. Alors, c'est pour ça que citer Lévi-Strauss, c'était amusant parce que ça lui permet à Lévi-Strauss, en se solidarisant comment s'appelait-il, de Chateaubriand, de fondre sa mémoire avec la mémoire de quelqu'un d'autre, etc. Bon, en quelque sorte d'élargir le statut ontologique de son propre passé. C'est un petit peu ambigu. Mais ce passé-là, qui donc n'a pas été mon passé, donc qui n'a pas été mon présent, et d'autre part, un passé qui de toute façon n'a été le présent de personne. Il est fondamentalement, fondamentalement passé, et il est l'originarité de toute origine. Alors peut-être que nous, c'est une suggestion, dans la mesure où on n'arrive pas à se souvenir de ce premier passé, qui lui est chronologique, parce que la chute du temple, ça a été un événement chronologique, dans la mesure où nous, on ne peut pas s'en souvenir comme quelque chose qui nous est arrivé personnellement, en quelque sorte, on transfère ce passé-là dans la deuxième catégorie de passé, et on en fait ce qui va venir animer à titre de principe notre présent lui-même. C'est une pure hypothèse. Mais dans les deux cas, il ne s'agit pas d'en faire un souvenir personnel comme l'épingle qui m'a piqué hier soir quand je marchais sans chaussettes de mon salon. C'est ça que je veux dire.
C'est bien que c'est très intéressant, le fait de se souvenir de quelque chose qu'on n'a pas fait. Simplement, là,
pour le modèle de souvenir subjectif ou personnel. Et je pense que la difficulté en fait de penser ça, c'est le souvenir en tant que peuple, en tant que communauté. C'est-à-dire que évidemment, je me souviens, moi, je me souviens plus facilement de ce qui m'est arrivé il y a 20 jours que de quelque chose que je n'ai pas connu. Mais du point de vue de la connaissance de ce souvenir, c'est une connaissance qui s'élève au niveau du. C'est une connaissance qui est assubjective. C'est un souvenir qui est assubjectif. C'est une condition assubjective du souvenir. Donc ça dépend pas du flux de ma vie personnelle. Donc c'est déjà quelque chose qui transcende le personnel. Il faudrait peut-être réfléchir à cette dimension de la subjectivité dans le judaïsme. À ce niveau-là, est-ce qu'il y a un lien entre subjectivité et souvenir ? Et moi, je pense que c'est systématiquement dépassé dans la notion de communauté. Et donc ça pose effectivement la question du souvenir en tant que quelque chose de collectif. Et qui peut-être transcende le temps, l'histoire plus facilement que quelque chose de simplement de personnel. Bon, mais effectivement, c'est un problème qu'il faudrait éclairer. Je crois que Dany voulait ajouter quelque chose.
La manière dont c'est résolu, c'est par la tradition. C'est le mot de tradition est fait pour résoudre ce problème-là. C'est-à-dire quelque chose est transmis, quelque chose est transmis de génération en génération. La mer s'est ouverte. Tout le monde l'a vu, c'est des publics, pas seulement des publics, tout le monde l'a vu, et c'est transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est la manière traditionnelle de résoudre. Et ça, tout le monde a vu ce qui c'est un nous, hein, ce qui nous est arrivé. C'est jamais une mémoire personnelle, c'est ce qui nous est arrivé. C'est toujours.
Mais est-ce qu'il ne faudrait pas se méfier du moment où les apories sont quelque sorte transférées et contenues dans un mot unique, tradition?
Et elle est moins résolue qu'en vérité concentrée dans un mot qui emporte la charge. J'ai un peu peur de ça, en fait.
Sauf que la tradition, ça veut dire
un tel a dit qui a dit un tel, qu'il a répété un tel, qu'il a repassé un tel. Donc c'est une chaîne. Ce n'est pas juste un mot, c'est une chaîne.
Je voudrais juste ajouter un mot sur la tradition. La tradition, c'est pas la transmission. Du même, il y a aussi un renouvellement de sens à travers la tradition. Le ridouche, il est quand même toujours là. Et le ridouche, il vient des vivants, de ceux qui écoutent maintenant. C'est pas immuable. C'est très important. Et la soirée de Pessard le montre très bien, où chacun questionne. Et que c'est ainsi, avec ces questions, que nous sommes vraiment contemporains, nous, de cet événement.
Laisser la parole à Anna Kersfeld qui nous a rejoint dans ce séminaire. Merci beaucoup.
Merci à toi, Alexandre. Moi, j'avais une question qui s'inscrit un peu dans le prolongement de plusieurs questions qui ont été posées et qui met peut-être un peu les deux pieds dans le plat. Mais c'est une question qui est double sur la mémoire de la Shoah, en fait. Les hasards du calendrier, comme tu disais, Alexandre, ont fait que cette semaine était à la fois la semaine de la Paracha Bo et du 75e, la 75e année de la libération d'Auschwitz. Et je me suis interrogée, en fait, sur la façon dont le souvenir de la Shoah pouvait, ou non, être transmis d'une façon religieuse, et on a parlé de ritualisation. J'ai lu un article d'un rabbin américain qui s'appelle Avi Weiss qui suggérait l'idée d'une forme de seder de Yom HaShoah où on viserait une contemporanéisation de la mémoire de la Shoah de la même façon qu'il y a contemporanéisation de la mémoire de la sortie d'Égypte au moment du Seder de Pessah. Ce qui me semblait assez étrange et peut-être même dérangeant. Et donc, je voulais savoir s'il fallait peut-être faire une distinction entre des événements qui témoignent de la présence divine comme la sortie d'Égypte et dont on transmet le souvenir à travers le rituel qui qui aboutit à cette contemporanéité, et les souvenirs des moments plus de deuil comme ceux qu'on célèbre à Tisha B'Av à travers une autre forme de transmission. Et si on cherche une ritualisation du souvenir de la Shoah, quelle forme ça pourrait prendre en fait? Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair en fait. Mais...
La question, oui, c'est très clair. Les réponses. Oui.
Je ne peux pas du tout répondre à cette question parce que je suis pas juste pas l'autorité. Je peux juste te dire quelque chose par rapport à ça. Parce que je lis en ce moment à pas aveugle de par le monde de Leigh Groshman. Et dans le chapitre 2, il y a. Dans ma tête, je l'ai appelé le chapitre des noms. Il y a le souvenir des noms, et le souvenir des généalogies comme ça qui remontent et qui m'a semblé être cet exercice littéraire, textuel, qui est une pratique dans la Torah, dans l'Exode. Dans le texte de l'Exode, de se souvenir des nombres. Enfin, c'est peut-être complètement banal ce que je viens de dire, donc je laisse la parole au Rav.
David. Je voulais dire, c'est vraiment une note de bas de page, mais il me vient à l'idée en vous écoutant qu'il y a une sorte de chose tout à fait originale dans le rituel de Tisha B'Av. Je ne sais pas d'où ça provient, mais il me semble que c'est la seule fête qu'on recherche à dater. C'est-à-dire dans le rituel de Tisha B'Av, en tout cas, c'est Farad, je ne sais pas si c'est le cas Ashkenaz, il me semble que oui, il y a un moment où on dit ça fait tant d'années que le temple a été détruit. A l'inverse, dans le Seder de Pessah, il n'y a pas du tout cette logique-là. Et même, on va se jouer de la chronologie, parce que si on regarde bien ce que nous disait Ramim, en particulier Rashi, il va nous dire, dès que Lot fait des matzot, on lui dit Pessah Haya, c'était Pessah. On se joue complètement, on dirait que, et même si on observe un petit peu, bon, je ne suis pas du tout spécialiste d'archéologie, mais si on observe le texte de la Torah dans l'Exode, quasiment pas de repères. C'est-à-dire, on galère comme des fous pour dire, est-ce que c'est Ramsès II, Ramsès II, on n'a aucune idée. Il y a Meler Hadash, on ne sait pas, on lui donne aucun nom, il s'appelle Paro, et puis il s'appelle Paro déjà bien avant. Donc la Torah ne nous donne aucun repère, même civilisationnel, finalement pas grand chose. Comme si elle nous disait, la problématique de fixation, de datation est complètement secondaire. Et personne dans les commentateurs ne cherche à insérer, enfin ma connaissance ou moins, dans le Seder de Pessah une volonté de rendre la chronologie. Absolument pas. On est hors sol complètement. Alors que dans les événements de Tisha B'Av, au contraire, on a l'impression qu'on voudrait le figer à ce moment-là et ne pas le laisser s'épancher ailleurs. Pure note de bas de page.
Prolonger quelques remarques que vous avez faites sur le corpus du texte grec. Souvent, on a un réflexe de ne penser aux Grecs qu'en termes de philosophes, et vous avez mis en avant que le texte de Homère, il a peut-être plus à nous renseigner sur l'idée que les sages se faisaient du monde grec. Je ne sais pas étayer ça, mais ça m'a l'air une intuition très juste dans la mesure où l'œuvre de Homère, elle est citée dans la Mishnah comme une œuvre parallèle aux œuvres des Kitvei HaKodesh, en spécifiant que l'œuvre des Kitvei HaKodesh, elle rend les mains pures, tandis que l'œuvre de Homère, non. Donc il y a une mention dans la Mishnah, peut-être seulement d'après certaines versions, de l'œuvre homérique. Et peut-être c'est l'œuvre de Homère qui a fait dire aux sages que la langue grecque possédait une beauté spécifique qui peut servir de vêtement à la langue de la Torah. Par contre, quand on oppose mutos et logos pour opposer monde grec et monde juif, ça a l'air un peu faible dans la mesure où, à l'intérieur même de la tradition, il existe ces deux modes de parole qui sont la Haggadah, mutos, et la Halakha, logos. Ça veut dire qu'on peut exactement transposer cette différence dans le langage à l'intérieur même des catégories de la tradition juive. Et cette chose-là, elle existerait aussi bien dans la tradition écrite, dans la Torah chez Birtav, qui possède des éléments de mutos et de logos, comme dans la Torah chez BLP, où on le désigne en parlant de halakha et de haggadah. Alors juste une remarque générale, qu'il existe dans tous les sidourim, dans tous les rituels de prière. Et pourquoi je cite le rituel de prière, c'est pour juste bien insister sur la caractéristique d'évidence de cette chose-là. Les choses qui sont imprimées dans le sidour, c'est qu'elles ont acquis une sorte d'évidence. Et dans tous les rituels de prière, aussi bien les livres, on va dire, qu'on trouve dans de la tradition française et allemande, aussi bien d'Europe de l'Est, aussi bien du bassin méditerranéen et jusqu'en Asie. Dans tous les rituels de prière, à la fin de la tfila de Shacharit, il y a un petit paragraphe qui s'appelle les Zechirot, les mentions de souvenirs. Alors il y a dans certaines versions la citation des versets, dans d'autres versions simplement de façon laconique. La mention des diverses recommandations de la Torah qui ont trait au souvenir. Alors on en a cité quelques-unes déjà. Donc on a dit Mitzrayim, Shabbat, Pessah et Amalek et le Sinaï. Ça c'est les cinq, on va dire, qui ont été cités déjà maintenant. Mais ce qu'il faut entendre, c'est comment, dans la pratique commune de n'importe quel juif, cette notion du souvenir, elle est centralisée. Parce que réciter le schéma le soir et le matin, le soir et le matin, tous les jours de sa vie, et dans ces paragraphes, de quoi on parle ? Ben, de l'unité de Dieu et de l'étude de la Torah, des commandements de la Torah et du souvenir de la mention de la sortie d'Égypte, tous les jours. Donc la mention, le souvenir de la sortie d'Égypte, c'est tous les jours. Maintenant, tous les Shabbats et chaque semaine, ça nous emmène vers Shabbat, c'est aussi la notion d'un souvenir. Pour ce qui en est alors de toutes les fêtes, chaque fête, et Pessah en particulier, qui installe le souvenir. Maintenant, Amalek. Amalek, on a besoin de se souvenir de Amalek. On a même, ça c'est une institution nouvelle des sages d'avoir fait la fête de Pourim en correspondance avec ce souvenir en particulier. Et enfin, le souvenir du Sinaï. Et le souvenir du Sinaï, il est relancé tous les jours dans le Kriyat Shema et tous les trois jours dans la déclamation publique du rouleau de la Torah. Maintenant, à part ça, il y a encore quatre autres recommandations de souvenir. C'est la Zachor et Asherasa Hashem Elokecha le Myriam, se souvenir comment Myriam elle a été châtiée d'avoir fait de la médisance. Donc ça c'est un rapport un souvenir. Donc il n'a pas un moment particulier dans l'année pour revivifier ce souvenir, mais c'est avoir toujours présent à l'esprit que dans la parole et dans le souvenir, il y a quelque chose qui peut se dégrader. Il y a le souvenir de les malédictions de Bilham. Comment Balak, il a pris conseil de Bilham pour venir maudire Israël. Et cette recommandation au souvenir, elle nous est très utile parce que génération après génération, on voit aussi des structures qui ressemblent à cette alliance Balak-Bilham pour médire sur Israël. Et si on ne savait pas que cette chose-là, depuis le départ, elle est renversée, alors on devrait faire face très souvent à des paroles, on va dire, des menaces très angoissantes. Enfin, il y a encore le souvenir du Hegel, le souvenir que nous-mêmes, on a été les artisans du Hegel, mais par rapport à cette chose-là, la Torah, elle a donné un cadre, on va dire, les sages ont donné un cadre à ça par le jeûne du 17 Tammuz. Et enfin, encore deux autres mentions de souvenirs, c'est ce souvenir que c'est Hachem qui nous donne de la force, de la richesse, des biens, et ce souvenir de Yerushalayim. Donc ces 10 recommandations au souvenir, elles font partie du rituel de la prière, elles figurent à la fin de Shacharit, mais surtout ce qu'il faut entendre, c'est qu'elles participent de la vie de tous les jours de chacun, et que parler de souvenir dans le judaïsme, c'est un synonyme de parler de judaïsme.
Je voudrais apporter une petite intervention sur Amalek, dont il a été question plusieurs fois. Amalek, je rappelle, ça a la même valeur numérique que ça fait que le doute, ce que les commentateurs considèrent comme la double identification de la mort du judaïsme, qui passerait soit par Hitler, soit par le doute. Donc Amalek incarne tout ce qui menace la pérennité du projet hébraïque, mais il a été vaincu par Moïse sur la colline, qui avait d'un côté Aaron qui lui tenait la main, et de l'autre côté Hur, le fils de Myriam qui lui tenait la main. Et je trouve cette image extrêmement expressive, parce que ça dit que quand on a du souvenir à la grecque, c'est-à-dire conçu dans du verbe, c'est Moïse seul et ses mains fatiguent. C'est-à-dire que l'idée seule ne survit pas facilement. Pour que l'idée survive, il faut qu'elle soit soutenue par le rituel incarné par Aaron et par l'affection féminine incarnée par Myriam qui délègue son fils. Et dans ces conditions, le souvenir, il n'est pas dans la tête, il est dans les mains. Car le texte dit « Emouna beyadab ». Le souvenir était dans ses mains. Ce qui est probablement la clé du mystère d'Israël, c'est-à-dire une nation qui reste une nation en étant dispersée sur toute la terre. Et quand il crée un État, les gens affluent de partout, alors que ça faisait 2000 ans qu'ils n'avaient plus de terre pour pouvoir incarner cette unité. L'image de Moïse, Aaron et Hur répond de manière saisissante à cette question en termes de rituel.
C'est à propos du souvenir de Jérusalem. En fait, dans les prières, mais les prières sont composées tardivement. La plupart des prières sont composées tardivement. Elles ont été composées, je ne sais pas quand d'ailleurs, ça dépend des prières, j'imagine. Comment se fait-il que dans le Talmud, on trouve peu de choses sur la perte de Jérusalem ou le regret de la perte de Jérusalem? Ou est-ce que je me trompe? Est-ce que ce souvenir de Jérusalem est un motif fort dans la période du Talmud, au moment de l'écriture du Talmud? Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer sur cette question? Comment?
Donc on réactive constamment cette idée-là. Il me semble que c'est même structurel.
Dans la période, pas les reprises, disons, du Moyen-Âge,
dans la période. C'était dans la Mishnah, dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il y a dans la Mishnah, dans la Gemara, qui concerne le souvenir de Jérusalem? Est-ce que quelqu'un a une idée? Si vous faites une recherche sur le Yerushalayim dans le Corpus, il y a quelque chose de très intriguant. On trouve très peu de choses. Je voudrais savoir pourquoi.
Oui, alors. On va le mettre.
Ouais.
Non, d'abord, prenons les prières dont je vous parlais, elles datent de ce qu'on appelle un tchèque Nesetak Dola, donc ce n'est pas du tout moyenâgeux. C'est très tôt. D'accord. Au contraire, c'est entre les deux temples. Entre les deux temples. Un tchèque Nesetak Dola, c'est vraiment très ancien. Et c'est eux qui ont composé la prière dans laquelle il y a Bonnet Yerushalayim, effectivement. Alors, oui, on parle de Yerushalayim. Oui, enfin, on parle d'Yerushalayim comme un lieu dans lequel tous les korbanot doivent être, etc. Donc, vous avez tout, dans tout Kodshim, vous avez des références à ça. Vous avez dans la Maseret Kilim, il y a une gradation de la Kdusha entre le reste du monde et le Beit HaMikdash. Un des niveaux, c'est Yerushalayim.
Dans les lamentations, effectivement.
Non, mais les lamentations, c'est pas la Torah. C'est pas le.
Dans la lamentation Rabba, il y a le Midrash Rabba,
il parle de lamentations, comme vous dites.
J'ai remarqué que, hormis là, il y a peu de choses. Alors, contrairement, il y a des allusions à Yerushalayim, puisque c'est Yerushalayim, le Beit HaMikdash. Mais il y a peu de discussions sur la question du rapport à Jérusalem, à Jérusalem perdu.
Ah, perdu. Non, pas tellement.
Dans les textes qui vont venir plus tardivement, c'est un motif qui devient dominant. Pourquoi est-ce que dans la période de la Gemara, il y a très peu de monde qui passe tellement cette chose? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une période dans laquelle l'idée du rapport à Jérusalem, c'est distendu pour se concentrer sur autre chose?
Vous avez, par exemple, à la fin de Ktubot, il y a ces lois où on parle là-bas de ce que un homme peut, enfin, ou même une femme peut contraindre son mari à aller habiter à Yerushalayim, et c'est ce problème-là. C'est à la fin de Ktubot, vous avez ça. Mais ça, c'est jamais, on ne parle pas de la destruction, ça, c'est en existence de Yerushalayim.
Il y a un certain nombre de choses que vous avez. Pardon ? De ne pas recouvrir de peinture, de ne pas avoir une table dressée complètement, c'est toujours Zecher la Midol, ça c'est Zecher la Korban. Et ça, il y en a un certain nombre.
Il me semble aussi qu'il y a une description de la chute de Jérusalem.
Son Sanhedrin,
pourquoi ça a été détruit et que ça a été détruit, pour quelles raisons, etc. Mais vous cherchez.
Je cherche l'aspiration. Souvenir.
Le ?
L'aspiration en direction du.
Enfin, le fait qu'on se dirige. Enfin, en dehors de l'espoir, la prière est dirigée vers Yerushalayim.
L'ordre
Kodachim,
d'une certaine manière.
Oui, c'est ce que je voulais dire. Donc, Kodachim,
vous avez complètement autour de
Yerushalayim. À la limite, là, on parle de Yerushalayim déjà existant, puisqu'on parle de Kodachim. On parle des Korbanot, donc c'est au moment où on les approchait. Le monsieur, il cherche la destruction.
Le rapport à la paix.
Ah oui, c'est ça. Ça, c'est pas là-bas.
Armand Yona, il a peut-être une idée.
Ce que tu cherches sur l'institution de Tisha B'Av comme une date phare, c'est Tisha B'Av est le point culminant du traité qui s'appelle Ta'anit, qui au départ démarre sur la question de la pluie et arrive en, et culmine sur ce qui se passe au Bétamigdash dans les Mahamadot et ensuite sur l'institution des deux jeunes, cinq choses qui se sont passées le 17 Tammuz, cinq choses qui se sont passées le 9 Av, et ensuite, quelles sont les recommandations de la Mishnah qui fixe comment on va installer la revivification du souvenir de la destruction et de la disparition. Qu'il y a une attitude recommandée par la Mishnah d'être le jour du 9 Av comme un homme qui a son mort étalé devant lui. Et les recommandations en rapport avec cette chose-là, elles sont tirées, on va dire, des lois de Avelut, plus précisément de Aninut, de deuil. Donc c'est la fin du chapitre 4 du traité Ta'ani.
Mais de nouveau, c'est des choses qui concernent le Bétamigdash qui sont tirées vers une existence, vers autre chose. Je voudrais savoir comment s'organise le rapport avec l'espérance de la fin de l'exil, le rapport avec Jérusalem, qui est tellement fort dans les prières qui vont venir après, qui est central et qui semble pas énormément préoccuper la Gemara.
On lit pas la même.
Non, mais je veux. Alors, est-ce qu'on lit pas la même ou est-ce que pour nous. Non, mais moi aussi je me pose la question. Non, est-ce qu'on lit pas la même ou est-ce qu'on lit la Gemara avec un regard complètement imprégné par un rapport à Jérusalem qui aurait été amplifié plus tardivement. Parce qu'à ce moment-là, il faut l'indiquer les lieux dans la Gemara où c'est effectivement où ça s'exprime, et c'est ce que je cherche.
Il y a eu des dizaines de monarchies installées à Jérusalem qui étaient franchement idolâtres. Et donc, d'une manière générale, la culture juive considère la politique avec infiniment de distance et de froideur. Parce que les rois ont pris des catastrophes. Très peu d'exceptions.
Une question chez Léo. Alors, c'était simplement par rapport à un énoncé. Merci beaucoup déjà pour l'intervention et je remercie par la même occasion Danny Trump pour la lecture que vous faites d'Eric Auerbach. C'est dans Mimesis le texte, c'est ça?
Oui.
Okay. Ça me paraissait très très. Je ne connaissais pas le texte, la distinction entre le style de l'Odyssée et donc de la Torah me paraissait comme ça très pertinent. Donc je vais aller vite chercher le texte. Mais vous avez dit, si je ne dis pas de bêtises, que l'omission impliquait le souvenir. Dans justement les procédés elliptiques, les absences dans le texte de la Torah, la non-exhaustivité de la Torah par rapport à la Genèse. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que vous l'avez répété à une ou deux occasions. Or moi, quand j'entends ça, j'entends le caractère non-exhaustif de la Torah invite justement, enfin, est la porte ouverte à Torah chez BLP, si on peut dire ça, et donc au Limoud. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose qui s'articule entre... quel est le jeu dialectique entre, en gros, l'imoud et souvenir par le culte. Et là, je pense qu'il y a une question, parce que si on dit les omissions impliquent du souvenir, je ne vois pas de quoi on parle. Par contre, c'est un appel au l'imoud. Mais après, comment s'articule le rapport entre l'imoud et, pour le coup, le culte qui implique un rapport au souvenir? Voilà, là, je trouve qu'il y a quelque chose peut-être à travailler. Ou à... Mais...
Il y a des choses qui ne sont pas dites sur lesquelles on va être amené à s'interroger. Non, c'est ça, l'omission qui n'implique pas directement le souvenir, mais qui implique une recomposition. Et cette recomposition, ça va nous orienter vers un travail sur le texte qui va lui-même être un exercice de souvenir ou de restitution d'un événement pour lequel il y a des choses qui restent un peu dans l'ombre. Mais les silences sont éloquents, enfin, c'est ce que l'on dit, mais il y a peut-être des choses qui ne sont pas directement visibles et qui n'ont pas vocation à l'être, je ne sais pas. Moi. Mais en tout cas, c'est-à-dire que c'est en fait ce qui m'a beaucoup intéressée dans le texte de Auerbach, c'est que les modalités de disposition au souvenir, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de modalités. Il y a une modalité qui est physique, qui est ancrée évidemment dans le corps, et quand on dit que le souvenir il est dans les mains, c'est une modalité du souvenir. Il y a une modalité qui est aussi dans l'esprit, dans le lecteur. Enfin, donc il faut que ce soit complémentaire. Je ne sais pas si on privilégie l'une ou l'autre. J'ai l'impression que le judaïsme permet d'avoir une complémentarité de ces dispositions au souvenir textuel, intellectuel, physique, individuel, communautaire. Voilà. Je pense qu'on peut trouver presque toutes ces dimensions.
Si je peux me permettre, peut-être que c'est ce qui manque pour comprendre le lien qu'il peut y avoir entre récit biblique et souvenir du point de vue qu'on pourrait dire quasi narratif ou stylistique, c'est la question de la promesse. Il n'y a pas de promesse chez les Grecs. Il n'y a pas chez les Grecs cet actant qui est introduit dans la Bible, dont on ne peut pas savoir exactement quelles sont ses intentions, et qui pourtant dit des choses. Et la chose la plus importante qui est dit, c'est quand même une promesse. C'est la promesse qui traverse tout le temps, et d'où la dialectique, la dialectique promesse-oubli, qui est réciproque. C'est-à-dire, c'est toujours quand Israël s'écarte du droit chemin, c'est qu'il oublie, et quand il reproche quelque chose à Dieu, il lui dit aussi qu'il oublie. Parce qu'il oublie, il oublie sa promesse. Donc la promesse, il n'y a pas chez les Grecs. Et c'est précisément la promesse qui ouvre un monde difficile à déchiffrer. Tandis que chez les Grecs, il n'est pas difficile à déchiffrer, c'est le destin, souvent, qui entraîne la narration. Donc je pense que c'est sur ce plan-là que se joue la nécessité à la fois d'une compréhension d'un texte obscur, tout simplement parce que il y a une promesse qui vient s'introduire, s'insinuer dans le récit.
Pour ma part, je n'ai pas compris que le verbe l'Odyssée, dans l'identité grecque.
Pardon ?
Quel rôle, à votre avis, joue l'Odyssée, dans l'identité d'Athènes ?
Une dernière question.
En fait, c'est deux questions, une pour Avishai et puis une qui est plus générale pour les uns ou les autres. D'abord, dans tout ce que tu as raconté autour de la politique du souvenir, tu n'as pas utilisé Ricoeur, et je voulais savoir si c'était à dessein, et si oui, pourquoi. Et la deuxième question plus générale, c'est sur finalement l'injonction ritualisée, qui est le propre, en fait, qui pour moi se déroule dans deux espaces assez dissociés. Il y a un espace de la politique du souvenir, on va dire dans la société civile, profane, avec la mise en œuvre de commémorations, de célébrations. Et puis il y a une politique du souvenir, on va dire, dans un espace religieux, qui prend d'autres formes de commémoration et de célébration. Et peut-être donc pour faire écho à ce qui se disait tout à l'heure, autour de la Shoah, on voit bien qu'il y a des formes de commémoration qui sont mises en œuvre dans la société civile. Et ma question serait de savoir, aujourd'hui, dans l'espace religieux, quelles sont les formes de commémoration qui sont mises en œuvre et quelle peut être aujourd'hui la teneur des débats au sein de la communauté religieuse sur ces formes de ritualisation qui peuvent être mises en œuvre.
Une remarque par rapport au thème, ça recouvre un peu certains points, sur le thème de la politique du souvenir. Alors, Madame Chalier a parlé évidemment que le Zecher, c'est une recréation dans la tradition. Yona a parlé de la prière. Et moi, j'ai quand même l'impression qu'on ne peut pas dissocier le souvenir du limoud. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression que c'est totalement lié. C'est ce qui fait la spécificité même du souvenir du peuple juif. C'est-à-dire que, et du coup, moi, j'ai vraiment l'impression que la politique du souvenir, c'est pour les juifs le limoud. C'est-à-dire, ça se réduit à ça. C'est-à-dire, ça convoque le limoud avec les mitzvot. Ça convoque toutes les parts de l'être. Le sensible, la prière, l'étude. Et que, on se débat, enfin, c'est ce que je ressens, à essayer d'opposer, les Grecs, et je suis pas un universitaire, c'est que intuitif, et le peuple juif, mais comme si on essayait de se servir des Grecs pour expliciter ce qu'on n'arrive pas à assumer, j'ai l'impression. Enfin, c'est-à-dire que moi, pour moi, ce qu'on dit, c'est le limoud. C'est pas autre chose.
Les décisionnaires parlent de la problématique de quelle est la mitzvah de raconter. Sur la base des Géonim, ils disent notamment qu'il n'y a pas, on ne peut pas s'acquitter en lisant les versets de la Torah. On pourrait dire que c'est absolument paradoxal, quoi. Ouais. Mais si on ne fait pas ce travail de limoud que vous évoquez, on n'est même pas acquitté. C'est-à-dire, d'une certaine manière, c'est une invitation fondamentale au limoud. C'est pas, voilà, c'est une restitution à l'identité.
C'est fondamental. Mais si on fait qu'étudier et qu'on ne fait pas les rites aussi.
Ah,
si on fait qu'étudier.
Oui, d'accord, mais je parle au niveau du récit.
Dans ce sens, on n'est pas du tout dans la commémoration.
Du tout, sinon on serait contenté de retranscrire.
Ça n'a rien à voir avec de la commémoration.
Alors, je vais essayer de dire le mot de la fin à l'échelle.
Merci. Donc, je ne peux pas répondre à toutes les questions. Ricœur, je ne vais pas utiliser parce que, pour mon propos, je sais qu'il a travaillé sur la mémoire, etc. Mais je cherchais à chaque fois la dimension juive, donc voilà, je ne l'ai pas utilisé. Pour les commémorations religieuses, la question a déjà été posée. Je pense que c'est pas mon domaine. Et pour ce que vous dites maintenant, bon, la relation Athènes-Jérusalem, c'est une coutume. C'est presque, ça c'est drôle de le dire comme ça, mais c'est, on a coutume d'opposer, non? Et, mais parce qu'il y a Hanouka aussi, donc il y a quelque chose. L'hellénisme est une question.
Non, mais après.
Bon, mais ce que je veux, c'est juste pour terminer là-dessus, de toute façon, je pense que quand on se compare avec les Grecs, c'est pas pour légitimer quelque chose qui vient de soi et qui pourrait être autonome par ailleurs. C'est des questions qui sont très fertiles. Dans le champ universitaire, les comparaisons amènent à des distinctions, des différences qu'on n'aurait pas perçues autrement. Donc ça amène à faire un détour, à prendre à une distance et à objectifier.
Mais il me semble qu'il y a des philosophes qui ont fait ce chemin.
Mais tout le monde, enfin, ils le font.
Non, mais qui ont après intégré ça dans leur. C'est-à-dire
le chemin de Rosenzweig.
Oui.
Vous n'avez pas parlé de Lévinas, mais bon, mais Denis Lévy, il en parle très bien.
Alors, bon, voilà, moi, c'est un auteur que je connais pas. Voilà, donc moi, on ne peut pas tout étudier, mais malheureusement, je ne le connais pas. Simplement, sur la question du... c'est le Limoud qui fait le judaïsme, qui fait cette politique du souvenir. Bon, moi, j'aurais tendance à penser de manière un tout petit peu plus étendue, plus ample, parce que cette politique du souvenir, elle fonde un peuple, elle fonde une communauté, et il y a diverses manières de se sentir appartenir à cette communauté. Alors, c'est vrai que du point de vue religieux, évidemment, le Limoud est essentiel, mais quand on va vers les personnes qui le sont moins, mais qui se sentent absolument appartenir à la communauté, malgré tout, au peuple, même sans passer par le Limoud, je pense qu'il y a quand même l'idée d'une communauté de souvenirs ou de souvenirs communs qui reste présent, même sans une pratique quotidienne, et qui font qu'il y a un attachement qui est organique, bon, organique, c'est pas un mot, c'est pas un bon mot, mais qui est fondamental. Et donc, c'est beaucoup plus ample que ça.
Je parlais de politique en termes de travail collectif juif qui servirait à l'universel. Si la spécificité du peuple juif, c'est de travailler pour l'universel, dans sa spécificité, c'est le Limoud. S'il veut faire comme les autres et rentrer dans un champ du politique qui serait proche, je le dis rapidement, des Grecs, alors, comme vous avez dit très justement lors d'une précédente journée, j'ai trouvé ça très juste, que la séparation de l'Église et de l'État en 1905, ça a été pour protéger la République, enfin l'État, vous avez dit que ce qui était bien, c'était qu'on avait inversé chez les Juifs de séparer entre la Kehuna et la Matroute, pour protéger justement d'une certaine façon la spécificité du peuple juif. Moi, je le sens comme ça.
Oui.
C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que...
Mais c'est hors politique, en fait. Ce que je disais, c'est que justement, pour protéger quelque chose de la corruption du politique, parce que le politique corrompt, il y a aussi cette dimension-là, il faut avoir un domaine qui résiste et qui soit antérieur au politique. Et donc, de ce point de vue-là, la religion qui a fondé une communauté, un peuple, une société, est antérieure elle-même au politique. Et donc elle a un champ libre... Et qui n'est pas corruptible par l'activité politique, administrative, technique du politique, etc. Voilà, c'était à ça que je pensais la dernière fois.
Voilà. Ah, j'ai dit exactement ce que vous dites, monsieur. Le monde dure.